cette question. Qu'est-ce qui fait la différence entre cette personne que je croise dans la rue, qui ne se dit pas forcément chrétienne, n'appartient pas à une église, ne dit pas avoir la foi, et moi-même, qui prétend être un chrétien, se rendre à l'église, appartenir au Christ? Qu'est-ce qu'il y a comme différence, à part celle, bien sûr, de ne pas pouvoir dormir le dimanche matin, de bien y avoir autre chose? À l'époque de ma grand-mère, quand elle était jeune, c'était plus facile, parce que les chrétiens n'allaient pas au cinéma, les chrétiens n'écoutaient pas cette musique obscure de débauchés qui était le rock'n'roll, les chrétiens ou les chrétiennes s'habillaient en longues et belles robes à fleurs et non en jeans. Bon, bien sûr, la foi ne se résumait pas à ces caricatures et puis était vécue bien plus profondément, mais au moins, être chrétien, ça se voyait. Aujourd'hui, les chrétiens vont au cinéma, il y a même une batterie dans l'église, le pasteur jeunesse joue de la guitare électrique, rendez compte, heureusement pas trop souvent pour ménager vos oreilles. Les filles s'habillent en jeans, même des fois assez courts l'été. On a eu quelques petits problèmes en Italie avec ça, c'était une mauvaise blague. Pour finir, qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui entre nous qui sommes chrétiens et les autres? Alors voilà, tout ça est tiré à grands traits et caricatural, vous m'en pardonnerez, mais au fond, qu'est-ce qui change? Alors bien sûr, il y a d'abord la croyance, on ne va pas le prendre négativement, le fait que je crois en Dieu, je crois en l'existence de Dieu. Il y a la foi, la confiance, j'ai placé ma foi en Dieu et surtout j'ai reçu la grâce, car c'est un don de Dieu, nous dit la Bible. Cela ne vient pas de vous. Vous pouvez lire ça dans Éphésiens 2, le verset 8. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Je suis juste récepteur de la grâce, de l'amour de Dieu. Je n'ai pas fait grand-chose pour ça. C'est lui qui a tout fait pour moi. Je ne suis pas meilleur que les autres. Mais cette grâce fait de moi un enfant de Dieu. Bien sûr, on parle de ça, c'est fondamental. Mais cette grâce de Dieu, cet amour de Dieu, que va-t-il produire dans ma vie? Que va-t-il changer dans ma manière de voir le monde, dans ma manière d'intervenir dans le monde, dans mes valeurs, dans ma manière de me conduire, dans ma manière de voir les autres, dans ma manière d'agir? C'est la question du royaume de Dieu. C'est une question et un thème qui a été abordé par Peter Clark la semaine passée, donc je ne vais pas le rappeler, mais c'est la question de vivre le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ici, c'est quand Jésus est reconnu comme roi et vécu en tant que tel. Alors, je pourrais faire une liste, la liste du chrétien, la liste des choses à faire, la liste des choses à ne pas faire, les critères qui définissent le chrétien. Et on a pu voir en Italie, je reviens souvent avec ça vu qu'on en a parlé tout à l'heure, que les critères suivant les époques, mais aussi suivant les régions, changent. Par exemple, en Italie, les femmes portent le voile pour la prière, encore dans certaines communautés, dans celles avec qui on a collaboré. Alors nous, on n'a pas eu à prier avec eux, en tout cas dans les réunions, donc ça va, les filles, vous n'avez pas eu besoin de porter le voile. Il y avait d'autres thèmes comme ça qui étaient intéressants et d'autres choses qui avaient de l'importance pour eux et moins pour nous. Donc on voyait que pour eux, c'était un sujet de division dans leur église, donc un sujet qui était important. Alors, il y avait certainement d'autres choses qui caractérisent un chrétien pour eux. Et il y avait toute une liste. D'ailleurs, elles ont dû mettre des t-shirts qui couvraient les épaules, par exemple, pour des signes extérieurs. Toutes sortes de choses comme ça. Je pourrais résumer ma vie chrétienne à des choses à faire ou ne pas faire, non seulement dans les signes extérieurs, mais aussi dans mon comportement. Le danger avec ça, même si ces repères sont certainement importants, on en a, vous en avez aussi. Le danger, c'est qu'on risque de devenir légaliste. Et on risque de développer une religion qui est celle de la superficialité. Parce que la différence du royaume de Dieu, c'est quand Jésus vient ici transformer mon cœur. Car le royaume de Dieu va venir de l'intérieur pour se manifester vers l'extérieur. C'est le message que Jésus veut nous donner. Et je ne peux vivre le royaume de Dieu, ni les valeurs du royaume de Dieu, sans la présence de Jésus-Christ, le roi lui-même. Je peux faire des efforts, tous mes efforts seront bons et seront louables, mais si c'est sans la présence de Jésus lui-même, ça sera vain que l'égalisme. Et j'ai besoin de Jésus lui-même, car seul Jésus, je pense, a la capacité, lui, d'accomplir les valeurs qui le caractérisent, son message, sa vie. Et j'ai besoin de Jésus lui-même. Et là, je le mets en jeu. Alors, on a souvent cette tendance, malheureusement, dans l'Église, mais on peut, bien sûr, et je pense que c'est nécessaire, le dire en nous. Nous pouvons, en tant qu'Église, que vive le royaume de Dieu par la présence de Jésus-Christ, le roi lui-même. Mais qui est Jésus, réellement? Quel est le message de Jésus? Quelles sont ses valeurs? Je vous invite à ouvrir votre Bible à Matthieu 5, nous allons le découvrir. Ou le redécouvrir, car c'est un texte qui est tellement connu. Trop de papier, moi, ça va pas, ça. Alors, Matthieu 5, les versets 3, je vous invite à lire dans vos Bibles. On va lire 3 à 13. Jésus dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, ou les pauvres en esprit selon d'autres traductions, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif, de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Voilà le texte qui nous occupe aujourd'hui. Et puis, j'ai aimé faire ce découpage un peu particulier de mettre ces deux textes ensemble. À la fois ce qu'on appelait les béatitudes, ces paroles de Jésus heureux, et à la fois celles de la terre. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que ça fera l'objet d'un prochain message. Mais ça traite... Ça nous parle directement du thème que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui va me permettre de garder en tant que chrétien, qu'est-ce qui va nous permettre de garder en tant que communauté chrétienne notre saveur, de faire la différence dans qui nous sommes, là où nous sommes avec Jésus. Dans mon gymnase, dans mon quartier, dans ma famille, dans mon apprentissage, voilà, à l'école, parmi mes amis. Je reviens donc à la question initiale. Jésus dit ce texte sur une montagne. Rappelez-vous Moïse. Le peuple d'Israël a été libéré de l'esclavage par l'intervention plus que musclée de Dieu lui-même, avec comme leader Moïse. À un certain moment, Moïse monte sur une montagne et il reçoit de la part de Dieu lui-même une loi de vie, les 10 commandements qui sont respectés de manière très universelle, une loi de vie qui sera gravé sur des tables de pierre. Une loi de vie pour un nouveau peuple, pour un peuple libéré, un peuple racheté. Ici, c'est au tour de Jésus d'inaugurer un nouveau règne en s'inscrivant dans ce qui s'est déjà passé à l'époque. Il inaugure une nouvelle loi, gravée non sur des tables de pierre à l'extérieur, mais gravée sur des cœurs de chair ici à l'intérieur. Le vôtre et le mien, c'est la loi de Jésus. Une loi de vie pour une nouvelle vie, pour un nouveau peuple racheté, libéré. Le désir que Jésus a, c'est que nous soyons heureux. On l'a chanté beaucoup ce matin. Vous allez voir, ça va être un peu différent que ce qu'on a chanté ce matin, dit ce matin. Ce « heureux » sonne comme une exclamation qui nous vient de Jésus lui-même, jusqu'à nous aujourd'hui. Dieu veut notre bonheur, mais de quel bonheur s'agit-il? C'est là la question. Le monde dit « heureux les ambitieux, car ils réussissent dans la vie ». En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Jésus dit « heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient ». Le monde dit « heureux les durs, heureux les forts, car ils ne se laisseront jamais meurtrir par la vie ». Jésus dit « heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Le monde dit « heureux les puissants, les tyrans, car la terre leur appartient ». Jésus dit « heureux les doux, car ils hériteront la terre ». Le monde dit « heureux les consommateurs, ceux qui amassent des richesses ». Et Jésus dit « heureux ceux qui font preuve de bonté ». Le monde dit « heureux les habiles menteurs, car ils arrivent à leur fin ». Jésus dit « heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Le monde dit « heureux ceux qui cherchent leurs propres intérêts au détriment de ceux des autres ». Jésus dit « heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Le monde dit « heureux les profiteurs, les exploiteurs, car le royaume de ce monde leur appartient ». Jésus dit « heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient ». Le monde dit « heureux lorsque vous serez célèbres, lorsqu'on vous adulera, lorsqu'on ne tarira pas d'éloges à vos égards à cause de vos personnes, de vos œuvres, de votre fortune, de votre prestige, etc. » Et Jésus dit « heureux lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Le monde dit « réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande sur terre. » Jésus dit « réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, votre récompense sera grande au ciel. » À qui Jésus promet le bonheur? Est-ce aux chrétiens qui, après 9 ans de relation d'aide, peut-être commencent à être bien dans leur peau, qui ont une belle situation, qui vivent dans le confort, dans l'abondance, un chrétien plus ou moins comme moi, quoi, voyez? Est-ce vraiment à moi que Jésus promet le bonheur? Est-ce réellement à vous que Jésus promet le bonheur? Peut-être. Ce que je lis dans ces premiers versets, c'est que le bonheur que Jésus promet est pour les pauvres, les endeuillés, les méprisés et les persécutés. Le bonheur que Jésus promet est une mauvaise nouvelle pour nous, les riches. Et il est une bonne nouvelle pour les pauvres et les nécessiteux. Heureux les malheureux, aurait pu dire Jésus, c'est le titre d'un chapitre d'un livre que m'a prêté Claude que j'ai trouvé excellent. Un journaliste qui s'est penché sur la personne de Jésus. Voilà, lisez-le, il est vraiment excellent et décapant. J'ai l'impression que le message de Jésus doit de nouveau, en tout cas je vais parler à titre personnel parce que je ne vous impose rien, mais doit me décaper un petit peu. Si le message de Jésus dans les Béatitudes et dans tout le sermon sur la montagne, c'est ce qu'on vous propose durant ces prochains mois, ne vient pas me chicaner pour ne pas dire autre chose, c'est que j'ai peut-être édulcoré son message. Jésus va marquer par sa personne, par son message, mais par sa vie et jusqu'à la croix, la différence entre le royaume de ce monde dans lequel nous vivons et le royaume de Dieu qui est déjà en germe ici partiellement et qui s'accomplira dans le futur. Et ces différents heureux qu'on a lus tout à l'heure nous parlent de cette différence que Jésus fait et aimerait qu'on fasse à sa suite pour qu'on garde toute notre saveur dans le monde dans lequel nous sommes. Le monde lui promet du bonheur pour ceux qui se mettent en compagnie des puissants et des riches, pour ceux qui amassent des trésors ici, la fin justifie les moyens. Heureux, c'est d'abord penser à soi, les autres n'arrivent qu'en dernier. C'est une échelle de valeur qui est généralement admise dans la société, dans la politique, dans le business, dans le monde du travail. Et c'est dans ce monde-là que nous vivons. Vous connaissez peut-être l'image de la grenouille. C'est une image qui est connue, mais j'aimerais quand même la rappeler ici, qui a été utilisée un petit peu voilà, pour toutes sortes de raisons. Imaginez une marmite remplie d'eau froide, dans laquelle nage tranquillement une grenouille. Le feu est allumé doucement sous la casserole. L'eau chauffe progressivement. Elle est bientôt tiède. La grenouille trouve ça tout à fait agréable et profite de son bon bain d'eau tiède. La température commence à grimper légèrement. L'eau devient chaude. C'est un peu plus que la grenouille apprécie. Cela fatigue un peu, mais elle ne s'affole pas trop pour autant. L'eau maintenant devient beaucoup plus chaude. La grenouille trouve ça désagréable, mais elle est affaiblie. Elle n'arrive plus trop à réagir. Mais elle supporte, ne fait rien. Et la température va monter, 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 jusqu'à ce que la grenouille, tout simplement, va finir par cuire et mourir, sans jamais réussir à s'extraire de cette marmite. Par contre, plonger la grenouille dans une marmite à 50 degrés lui aurait permis de rebondir directement et de s'extraire de cette casserole. Alors c'est une petite allégorie comme ça, mais qui nous montre que quand un changement est négatif, on s'y accoutume si ce changement est suffisamment lent et progressif. Et il échappe à la conscience et ne permet plus aucune réaction. Et j'ai l'impression que ce message de Jésus et ces béatitudes que nous venons de lire ont la capacité de venir comme une sorte d'ondée d'eau fraîche sur nos vies pour nous aider, pour nous réveiller et aider cette petite grenouille à reprendre conscience de quel est réellement le message du royaume de Dieu pour s'extraire d'une certaine manière de cette casserole. J'ai besoin de retrouver l'aspect décapant du message de Jésus. Quand j'étais ébéniste, ça fait fort longtemps, on recevait parfois des vieux meubles mais qui étaient couverts de peinture. Mais l'ébéniste qui est expérimenté, c'est voir à travers toutes ces couches de peinture qui ont été mises au fil du temps, l'essence même et le beau meuble qu'il y a derrière. Et commence là toute une série de processus assez longs, en fait, de décapage, où il faut mettre de la gélatine, ensuite il faut attendre que ça fasse des cloques, après certains ont fait ça, après vous allez avec une spatule, et puis des fois on va couche après couche et on découvre des couleurs de verre improbables qu'on n'utilise plus maintenant. Mis sur un beau meuble en noyer massif, par exemple, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Puis après, on doit prendre, voilà, là, on doit enlever tout ça le mieux possible. Il y a plusieurs étapes avec du décapant liquide, avec des ponçages, etc., etc. Ce que je trouve intéressant dans cette image, c'est que l'ébéniste a cette capacité de voir à travers ce meuble couvert de multiples couches de vernis la réelle beauté, l'âme du bois, l'âme du mobilier, pour ceux qui apprécient ce genre de choses. Moi, c'est mon cas puisque j'en avais fait mon métier. Il ne s'arrête pas aux couches superficielles de vernis. Et j'ai l'impression que ce message de Jésus est comme ce décapant qui vient me décaper pour que je retrouve le cœur, pour que je retrouve l'essentiel. En tout cas, c'est mon désir. J'ai envie de vous encourager, j'ai envie personnellement aussi de me laisser faire par Dieu, ce grand artisan, qui sait exactement qui je suis, pour que ces paroles puissent venir enlever toutes ces couches-là pour retrouver vraiment toute la beauté du meuble, toute ma saveur. Ce message de... Après, je me suis dit, mais que faire de cette béatitude aujourd'hui? Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué de pouvoir les appliquer directement dans notre société. Et quand j'ai lu, quand j'ai dit ces quelques paroles à mes filles hier à table, je leur ai dit que je prépare un message pour ce matin, elles m'ont dit, ouais, c'est n'importe quoi ce message, c'est n'importe quoi. Puis Sarah a dit, oui, mais c'est Jésus qui le dit. Ah, j'ai cru que c'était papa qui l'a. Voyez, tout de suite, elle rentrait. Mais c'est vrai qu'elle ne comprenait pas, elle disait, c'est pas vrai, les endeuillés, les personnes dans le deuil ne sont pas forcément consolées. Et j'ai dû leur expliquer en fait qu'il y avait le royaume de Dieu aujourd'hui, partiel, et celui qui vient. Et ces béatitudes ne sont pas que là pour notre bonheur immédiat, mais s'inscrivent bien dans cette dimension d'un royaume qui vient. Et ces béatitudes sont adressées d'abord à des personnes, je l'ai dit, qui sont dans la peine, à des chrétiens qui sont quand même persécutés, ou en tout cas qui peuvent mal vivre leur foi, ou en tout cas qui ont besoin d'une espérance à moyen, à long terme. Évidemment, une personne qui est dans la persécution, qui est emprisonnée à cause de sa foi, quelle justice ! Quelle justice ! Il peut s'en remettre qu'à la justice de Dieu. Et ces béatitudes vont prendre toute leur saveur pour lui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le message d'un Jésus, d'un royaume qui vient, de Jésus qui revient, franchement, mais vous voulez vendre ça comment? Moi, je peux pas vendre aux jeunes, moi, j'ai de la peine. Je sais pas, ça vous parle. Le royaume de Dieu qui vient. Des fois même, on en vient à prier pour qu'il ne revienne pas, tellement on est bien ici, dans le confort, on a envie de jouir de ce que Dieu nous donne. Vous voulez qu'on fasse comment? Comment peuvent résonner des béatitudes comme ça dans cette perspective de ce royaume-là? On a besoin de retrouver cette perspective, non seulement du royaume-là, et d'essayer de manifester ses valeurs aujourd'hui, c'est mon cœur, et en même temps de garder vraiment à l'esprit cette dimension du royaume qui vient. Et c'est une consolation qui est magnifique. Il y a des promesses des fois que je n'arrive pas réellement à saisir. Le royaume, les pauvres en esprit, le royaume des cieux leur appartient. Ceux qui pleurent seront consolés. Les doux hériteront la terre. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on sera bon avec eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Promesses magnifiques. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Pardon, un chat dans la gorge. Et mes filles ont un petit peu, en tout cas dans la discussion qu'on a eue, elles ont un petit peu mieux compris cette dimension du royaume de Dieu qui vient et d'inscrire son espérance dans ce cadre-là. Alors je suis en train d'essayer de me retrouver dans mes feuilles, voilà. Je m'y retrouve. Cet auteur-là, je lisais que je lisais dans ce livre que ses amis pasteurs lui disaient « Plus on est bien dans le monde dans lequel on est, plus les chrétiens sont dans l'abondance, plus les bénédictions sont ici pour aujourd'hui sur terre. Et plus on va dans les églises persécutées et dans des situations de chrétiens difficiles, plus les chances sont des promesses de Jésus, du royaume qui vient. » C'est exactement ça. Dans la tourmente de la rentrée, je me suis dit, mais dans cette rentrée, il y a tellement de choses qui vont venir les unes après les autres. Septembre, c'est tellement chargé. Et puis après, il y aura Noël. Et puis après, et puis après, et puis après. Et puis on a l'impression de courir. Les béatitudes et ce message de Jésus peuvent peut-être m'aider à me recentrer sur l'essentiel. Mais Seigneur, pour finir, qu'est-ce qui est important dans ma vie? Seigneur, mais pour finir, qu'est-ce que ma foi? En quoi je peux faire la différence dans ce monde et en quoi je peux faire la différence dans ces mois? Sur quoi je peux m'arrêter un moment pour méditer? Et moi, je vous encourage vraiment à méditer sur ces quelques paroles. Les béatitudes viennent du mot bonheur, mais c'est vrai que du latin, mais c'est vrai que je trouve que ça fait un peu béat d'admiration, c'est un peu passif, vous voyez, comme ça. Alors que vraiment, c'est une parole qui nous met en route. Et c'est Claude qui me rappelait que Chouraki, un traducteur un peu original de la Bible, versé dans la langue hébraïque, avait traduit d'abord « debout ». Puis après, il s'est dit « c'est bien le heureux ». Il s'est dit « c'est bien, mais c'est pas assez dynamique, je vais le traduire en marche ». Et c'est exactement ce qu'on a envie d'être, c'est en marche. J'aimerais simplement, pour conclure, relire ce texte. Parce que ce message, je suis conscient que c'est une grande introduction, que j'ai rien dit sur les béatitudes, vous avez remarqué, hein. On peut parler longtemps pour rien dire quand même, c'est impressionnant. Hein. J'ai essayé de vous donner juste l'état d'esprit dans lequel j'aimerais qu'on puisse les relire, pour que réellement on puisse garder cette saveur que Dieu veut qu'on ait, qu'on fasse la différence dans le monde dans lequel nous sommes, depuis l'intérieur, ici. Alors voilà, je vais laisser la parole de Dieu conclure et je vais simplement les relire. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. Mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Amen.
Nous restons dans le silence pendant 2 minutes pour se mettre à notre écoute avec notre Dieu.